Ce jour-là, nous nous sommes mis en route un peu tard. Le soleil était déjà haut dans le ciel. Et même si c'était encore le printemps, il frappait fort. Jésus marchait devant. Nous suivions derrière, un peu à distance, parce qu'en ce moment, nous avions du mal à le comprendre. Et personne n'osait l'interroger. Nous étions à peine partis quand on a vu arriver de loin, son vêtement retroussé, un pan dans la main, un homme échevelé, dégoulinant de sueur, comme quelqu'un qui a peur de manquer un rendez-vous. Il avait couru à perdre haleine, soulevant derrière lui un nuage de poussière. Il s'est jeté par terre, genoux au sol, la tête dans les cailloux, offrant à Jésus sa nuque baissée et sans reprendre son souffle, comme si sa vie en dépendait, il lui a demandé « Bon maître, que dois-je faire pour hériter la vie éternelle ?» Sur le moment, je n'ai pas réagi. Je devais penser comme lui. Mais maintenant, en redisant ses propres mots, ce qui me semblait naturel, aujourd'hui me paraît étrange. Que peut-on faire pour hériter ? Rien. Il faut être fils ou fille et recevoir d'un autre ce que librement il donnera. Il se pourrait bien que le secret soit là. Être fils ou fille et se laisser aimer, sans avoir à prouver ni à donner en retour. Je sais moi-même le chemin difficile à parcourir et que sans cesse il me faut reprendre pour abandonner le désir de maîtriser, la volonté de faire pour prouver, le besoin de rendre ce que l'on m'a donné, de ne pas dépendre, de ne pas être en dette. Mais je vais un peu vite, laissez-moi vous raconter la suite. La course est freinée, donc le visage en nage, l'agenouillement au pied de Jésus, et cette question lâchée d'un trait, tout chez cet homme traduisait une urgence qui ne devait rien au temps qui passe, et qui devait tout à sa quête de vie et de sens. Je peux vous assurer d'une chose, la question était sérieuse, vitale. Pas comme celle que les religieux s'ingéniaient à poser à Jésus pour le piéger. Non, pour cet homme, c'était une question de vie. Au moment de répondre, Jésus a esquissé comme un mouvement de recul. Pourquoi m'appelles-tu bon? Nul n'est bon que Dieu seul. Jésus, quand il était étonné, le montrait. Il disait ce qui l'animait en profondeur, ce qui était pour lui évident et ce qu'il vivait. Il ne fallait pas accorder à un homme, lui, ce qui venait de Dieu. Il fallait reconnaître que le bien dont un homme est capable trouve sa source en Dieu. Jésus s'étonnait toujours que l'on puisse attribuer aux hommes ce qui appartient à Dieu. Et voiler le mystère en chacun de nous. L'homme a levé les yeux et Jésus a continué. Tu connais les commandements. Tu ne commettras pas de meurtre, d'adultère, tu ne voleras pas, tu ne porteras pas de faux témoignages, honore ton père et ta mère. Comment vous dire, l'homme à cet instant a ouvert de grands yeux. Il n'avait pas couru dans la poussière du matin. Il ne s'était pas humilié en se mettant à genoux pour entendre un résumé de la loi, le béaba de l'enseignement de la synagogue, celui qu'un enfant déjà tout petit connaissait par cœur. Non, il attendait du maître une autre parole, un autre enseignement, peut-être une révélation, quelque chose qui aurait changé sa vie. J'ai senti dans sa voix le double écho de la déception et de la fatigue. Maître, tout cela je l'ai observé depuis ma jeunesse. Et dans le silence qui suivit, j'aurais pu poursuivre sa phrase, tant ce qu'il vivait m'était connu. L'observation de la loi n'a pas calmé ma quête ni mon angoisse. Mes questions demeurent, et je sens que ma vie doit s'enraciner ailleurs, au-delà de la loi. J'ai fait ce que la loi attendait de moi, mais je ne suis pas assurée. On sentait que cet homme était sincère, qu'il accomplissait la loi avec sérieux, sans trouver de réponse. Il y eut à ce moment-là un temps de silence d'une intensité rare. Jésus l'a regardé. Et je ne peux pas décrire la qualité de ce regard. Un regard de tendresse et d'accueil qui disait l'espace ouvert et la possibilité pour le suivre. Puis Jésus a dit, « Va. Une seule chose te manque. Vends ce que tu as, donne-le aux pauvres, et tu auras un trésor dans le ciel. Puis viens et suis-moi. » Et là, c'est un autre silence qui s'est installé. Celui qui suit une catastrophe, l'annonce d'une mauvaise nouvelle. J'ai vu le front de l'homme se plisser. J'ai vu ses lèvres s'étirer vers le bas et son regard plonger vers le sol. Il devait voir défiler sous ses yeux tous ses biens, toutes ses possessions. Il devait s'imaginer sans elles, sans leur appui, sans leur présence rassurante. Et si elle n'avait pu le satisfaire, pourquoi avoir couru et s'être jetée aux pieds de Jésus? Elle l'avait au moins dispensé de dépendre de quelqu'un. Elle lui avait permis de faire l'économie de quelques souffrances, procurer une identité. Il a dû éprouver un vertige, le sentiment de la nudité et du dépouillement. Il s'est vu comme un arbre déraciné. Il n'avait pas envisagé cette déchirure. Jésus lui disait en quelque sorte, « Il te manque de manquer, de n'être plus rien. Il te manque de te vider. Il te manque d'être vide pour pouvoir me faire confiance et vivre à mes côtés. » L'homme n'a pas dit un mot. Il était venu en courant, il est reparti lentement, le dos courbé. J'aurais voulu le retenir, le prendre par la main, adoucir ces paroles de Jésus tellement sévères. J'aurais voulu l'entendre dire, « Je veux te suivre, viens au secours de mon impossibilité. » Je sentais en moi monter une colère contre Jésus et ses paroles si radicales. Comment pouvait-il répondre ainsi à cet homme si bien disposé? J'étais effrayée moi-même par les propos qu'il avait tenus, et je me sentais concernée et bien incapable de les accomplir. Jésus n'a rien dit. Il n'a rien fait pour retenir cet homme. Il a respecté sa douleur et son impossibilité. Il l'a laissé partir. Il n'a pas fait le choix de l'homme à sa place. Il ne lui a pas permis de faire l'économie d'une décision. Il ne lui a pas évité la confrontation avec lui-même. La rencontre avec son cœur. Et ce n'est qu'après, bien plus tard, quand nous nous sommes retrouvés seuls, nous les disciples avec Jésus, emportés par la mort, puis emportés par la vie au matin de Pâques. Ce n'est qu'après, en repensant au parcours de Jésus, que j'ai compris que Jésus lui-même avait dû livrer le même combat, traverser les mêmes incertitudes, les mêmes déchirements, les mêmes abandons et la douleur d'être seule face à la vie et face à la mort. Quand il avait parlé à l'homme riche, c'est qu'il avait déjà pour lui-même fait le pas, pris la décision qui allait orienter la suite de sa vie vers le don. C'est qu'il devait encore livrer bataille. Il n'avait pas parlé à cet homme avec légèreté, ni avec hauteur, mais parce qu'il en comprenait la nécessité. Il avait parlé comme un compagnon de route, qui pouvait saisir de l'intérieur le combat à vivre. Il a parlé ainsi parce qu'il savait que Dieu seul rendait la chose possible pour l'homme, parce qu'il savait que si l'homme voulait vivre en fils de l'essentiel, il devait changer son cœur. Il devait se vider de lui-même, de ses béquilles, de ses échafaudages, de ses protections, et laisser place à Jésus-Christ. Jésus n'a pas retenu l'homme, il l'a laissé vivre le face-à-face avec lui-même, il l'a laissé devant Dieu, et il a fait confiance à Dieu, qui peut rendre possible ce qui pour les hommes est impossible. Il l'a laissé partir avec le souvenir de sa tendresse pour lui, de cette communion intime qui, l'espace de cet instant, avait fait d'eux des compagnons de route. Aujourd'hui, je ne sais pas ce que l'homme est devenu, mais ce que je sais, c'est que Jésus l'a aimé infiniment.